Diane Bruno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante chez Mandarine Gestion et vous suivez le secteur mid-cap et small-cap. On va parler avec vous de cet univers hein, qui est assez large, notamment pour la France, mais qui est aussi intéressant pour les investisseurs en Europe. Quel regard peut-être vous portez déjà sur cette année 2014? Traditionnellement, on a de la surperformance quand on regarde sur une longue période. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est le cas pour 2014 ou pas?
Alors, 2014, c'est une année plus compliquée. Les small et mid-cap sous-performent les grandes capitalisations. Ça ne remet pas du tout en cause cette surperformance de long terme dont vous parliez. Après, cette sous-performance, elle se justifie, et c'est pour ça qu'elle ne nous inquiète pas vraiment. Elle se justifie parce qu'on se pose des questions sur le cycle, et qu'à chaque fois dans le passé, à chaque occasion où on s'est posé des questions sur le cycle, eh ben, il y a eu de la sous-performance. Donc 2014, point d'interrogation sur cette reprise cyclique en Europe qu'on a du mal à entrevoir. Et du coup, bah, les small et mid cap souffrent puisque c'est un formidable choix dans l'univers cyclique.
Alors on dit souvent que cet univers-là est moins sensible justement à ce qui peut se passer quand on a des informations en provenance des États-Unis, en provenance des pays émergents, voire en provenance d'Europe. Parfois, ils sont sur des marchés plus locaux. Cet argument-là, ce contexte de marché, ne tient pas la route?
Alors cet argument-là ne tient pas la route cette année parce qu'il y a des logiques de flux. Et du coup, quand les investisseurs sont inquiets sur le cycle, ils veulent dérisquer leur portefeuille. Et un des moyens de dérisquer les portefeuilles, c'est de vendre des small et mid-cap. Alors du coup, c'est ce qui explique cette sous-performance. Après, vous avez tout à fait raison. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est le choix de business model de niche. On en a beaucoup et c'est ce qui fait tout l'intérêt. Et c'est ce qui explique cette surperformance de long terme qui devrait continuer selon nous.
Alors, il y a eu effectivement aussi un autre phénomène cette année, c'était quand même le PEA-PME. On en attendait beaucoup, pas que nous, mais aussi bien Bercy que les gestions. Finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, ça n'a pas attiré autant d'investisseurs que ça. On en est peut-être à 10% de ce qui devrait être fait. Est-ce que c'est lié aussi à ce contexte de marché ou à d'autres choses?
Alors, nous, on y a cru aussi, puisqu'on a lancé chez Mandarine Gestion un fonds PEA-PME. Donc, on y a cru comme les autres. Cependant, on avait décidé de positionner ce fonds plutôt small cap et pas micro cap, et plutôt européen et pas français uniquement. Et on n'a pas forcément suivi cet engouement du marché qui s'est passé entre janvier et mars, où il y a eu beaucoup d'anticipation d'effets positifs de ce lancement. On n'y a pas vraiment cru. Pourquoi? Parce que même si un certain nombre de PEA étaient au plafond, on pensait bien que la collecte mettrait du temps à arriver. Et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est désespéré sur le produit? Pas du tout. On pense que ça fait sens aujourd'hui d'avoir un produit comme ça. Le fait que ça prenne du temps, bah, c'est normal parce que tout ça s'est couplé avec, depuis l'été, bah, des interrogations sur le cycle, comme on disait, et une sous-performance de cette classe d'actifs. Donc le client final est un petit peu plus frileux et n'a pas forcément envie de se ruer sur ce type de produit aujourd'hui. Cependant, c'est l'occasion de créer un track record et de créer un produit qui va démontrer son intérêt sur le long terme. Parce que oui, il y a de la croissance sur les small cap européennes et oui, ce type de produit peut offrir des business models de niche aux clients finaux.
Alors, tous les gérants et toutes les gestions n'ont pas le même spectre d'investissement sur ces mid, small ou micro cap. Est-ce que vous êtes par rapport à ce qui se passe au marché français, marché allemand ou d'autres marchés, il y a des critères bien précis, ce que vous considérez comme une mid cap par exemple?
Oui, bien sûr. Alors pour nous, les small et mid cap au niveau européen, c'est un univers assez large et ça va aller de 300 millions d'euros à 7 milliards d'euros. Sous 300 millions d'euros, on va considérer que c'est une micro cap et au-dessus de 7 milliards que c'est une grande capitalisation. Cet univers est assez large parce qu'on le voit d'un œil européen. Plus vous êtes locaux, plus finalement vos bornes se réduisent. Donc si on était un investisseur uniquement français, on va dire que la borne des micro-caps se situerait plutôt sous les 100 millions et la borne des grandes capitalisations plutôt au-delà des 5 milliards. Donc voilà, nous on a notre angle d'attaque européen qui fait qu'on a ces bornes 300 millions, 7 milliards pour small mid-cap européenne.
Aujourd'hui, donc pour vous, c'est plutôt un bon moment pour investir sur ce type de valeur au niveau européen?
Alors oui, pour la simple et bonne raison que tous les atouts des small et mid cap ne sont pas remis en cause par l'environnement actuel. Elles offrent toujours des business models alternatifs et de niche par rapport aux grandes capitalisations. Donc ça permet aux clients de diversifier son risque. Elles sont extrêmement bien, elles ont des situations bilancielles très saines. Quand vous regardez aujourd'hui des indices small mid cap, il y a plus de la moitié qui est finalement en situation soit de trésorerie nette, soit en situation de dette nette très faible. Donc ça veut dire qu'elles sont solides, en tout cas la partie cotée. Et puis elles ont des velléités de croissance, donc souvent elles sont très internationalisées, elles n'ont pas tous leurs œufs dans le même panier. Donc tout ce qui a fait leur succès ces dernières années reste valide. Et puis au-delà ça, vous avez aujourd'hui une prime de valorisation qui s'est considérablement réduite. Alors, elles se payent toujours plus cher que les grandes capitalisations. Elles se sont toujours payées plus cher que les grandes capitalisations depuis les années 2000. Ça ne les a pas empêchées de surperformer, mais cette prime s'est considérablement réduite. Donc oui, pour un investissement long terme, nous pensons que c'est une bonne occasion.
Comment on gère justement le risque de liquidité, ce qui parfois pour les investisseurs effectivement peut poser problème en se disant c'est bien gentil, il y a cette croissance, il y a de belles histoires, mais en cas de retournement, comment je fais pour sortir de tel ou tel titre ?
Alors c'est mon travail et c'est l'intérêt d'avoir un OPCVM, c'est parce que le risque de liquidité il est transféré à moi finalement, et moi c'est mon travail tous les jours de m'assurer que le portefeuille est liquide et que je peux permettre à mes clients de sortir au jour le jour, puisque nous gérons des fonds ouverts. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au global sur le portefeuille combien de pourcentage du portefeuille nous pouvons vendre en une, deux, trois journées. Et à ce jour, 80% du portefeuille peut être soldé en trois jours. Donc, ça reste, en tout cas pour notre plus gros fonds Mandarine Unique, un fonds très, très liquide.
Sur les secteurs en question, on trouve aussi bien, vous donnez des exemples dans les pompes funèbres, dans les sociétés qui vendent des accessoires pour animaux. On s'aperçoit que c'est un univers très diversifié. Son intérêt, ça va être justement, quel que soit le cycle, entre guillemets, de pouvoir délivrer de la croissance.
Alors, moi je suis gérant de croissance et je pense que ce qui fait l'intérêt de l'univers small and mid cap, c'est de trouver finalement les petites sociétés qui deviendront les moyennes de demain et les grandes d'après-demain. Donc oui, l'angle d'attaque qu'on a choisi, c'est un angle croissance. Et puis après, au-delà de ça, comme vous le mettiez en avant, nous, on pense que ce qui est intéressant dans une small and mid cap, c'est de trouver un business model qui n'existe pas chez les grandes valeurs. Et c'est pour ça qu'on a créé Mandarine Unique, qui investit finalement sur des entreprises uniques qui donc n'ont pas de concurrents cotés en Europe. Et ça nous donne un angle d'attaque qui nous force à aller chercher des business models originaux. Et donc, en effet, on a en portefeuille du Dignity, donc le leader anglais des pompes funèbres. Il n'y en a pas d'autres cotés en Europe. On a du Pets at Home, donc le leader des accessoires pour animaux en Angleterre. On a aussi, par exemple, du Hellermann Titan qui fait des attaches pour les câbles dans les voitures. Donc là, voilà, on rentre vraiment dans la niche. Et c'est cette niche qui nous intéresse, puisque finalement, Hellermann Titan, ça va être des croissances de chiffre d'affaires à deux chiffres, alors même que la production automobile mondiale est plutôt, quand ça va bien, autour de 5%.
Voilà, intéressant de s'intéresser donc à cet univers. Merci Diane Bruno d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.